hausse les épaules et change de magazine, comme si elle n'avait plus envie de parler de ça. Nathan en profite pour se défiler. Il se retourne pour s'assurer qu'elle n'est pas derrière, ni elle ni tous les autres, comme de petites poupées gigognes échappées d'une même matriarche. Il revient dans son wagon d'origine. Le bruit, les rires, les gens qui parlent. Oh, ce que ça fait du bien! Anna dort toujours aussi profondément, la respiration lourde et régulière. Il vient de traverser 40 ans de sa vie et elle, elle dort. Il est à deux doigts de s'asseoir, de la réveiller, de la serrer contre lui, mais quelque chose l'en empêche. C'est ce numéro de wagon affiché juste devant lui, le numéro 3. Ça veut dire qu'il y en a encore deux autres. Et si... Oh, il veut tenter le coup. Il pousse la porte, traverse le sas et arrive dans la voiture numéro 2. Son cœur se serre, aucun doute. On est bien au début des années 80. Il suffit de voir le joyeux bordel dans la voiture. Les coupes, les looks, les vestes couvertes de badges et de pins, la fumée des gitanes. Wagon fumeur. Et puis, ce type, juste là, qui s'acharne sur un Rubik's Cube. Dehors, la neige recouvre généreusement les toits des maisons. Ils arrivent bientôt à Dieppe. Nathan remonte les années avec une idée bien précise, incroyable, en tête. Dans ce wagon, il va avoir 10 ans. Sa mère n'est déjà plus de ce monde, emportée par un chauffard 2 ans plus tôt. Mais dans l'autre wagon, le numéro 1, il y va. Se dit que ce train qui trace sa route est à l'image de sa vie qui défile, du premier au dernier jour. Quelque part, à l'autre bout de cette machine infernale, loin dans le futur, il est déjà mort. Il n'a pas vu grand-chose, mais le peu des images qu'il a rapportées l'effraie. Sur les comportements des gens, sa propre vie, il sait que ça va le hanter longtemps, qu'il n'oubliera jamais les visages de Maxime et de la petite Victorine. Il s'arrête au bout de l'allée. Quand il la voit, l'émotion est trop forte et cette fois, il ne peut s'empêcher de pleurer. Sa mère est là, les mains sur son ventre arrondi, le visage tordu de douleur. Elle est toute jeune. Elle relève ses yeux embués vers ce grand échalas qui se tient juste à sa gauche. Est-ce qu'elle le voit tel qu'il est, du haut de son 1m85? Nathan sait qu'elle ne peut pas le reconnaître, puisqu'il n'est pas encore né. Il n'est qu'un paradoxe temporel, une scorie de l'espace-temps, mais il est bien là, bien réel, face à elle. « Excusez-moi, jeune homme, » fait-elle, « je me sens pas très bien. Le bébé, je crois que il faudrait un médecin. Tu peux essayer de trouver ça pour moi? Fais vite, s'il te plaît. » Nathan a l'impression de sombrer dans un gouffre. L'histoire se répète. Il y a longtemps, sa mère lui a parlé d'un jeune homme présent à ses côtés au moment de ses premières contractions. Ce jeune homme, c'était lui? C'était lui? Non! Non! Nathan ne peut pas tourner en rond sur l'anneau du temps, revivre indéfiniment le même scénario. Il hésite, puis s'installe vite près d'elle. Il se serre contre elle, elle le repousse. « Mais qu'est-ce que tu fais? Un médecin, s'il vous plaît !» Les voyageurs se retournent. Nathan lui attrape la main. « Il faut que tu m'écoutes très attentivement, maman. Ça va se passer le 8 mars 1980. Tu ne devras pas prendre l'autoroute vers Versailles. Il y aura un homme à contresens et vous allez vous percuter. » Elle continue à se débattre et crie qu'on l'agresse. Un homme au visage sévère saisit Nathan par le bras et l'entraîne vers l'arrière. « Recule, bon sang, tu ne vois pas qu'elle est en train de perdre les os ?» D'autres passagers s'en mêlent. Nathan est écarté de sa mère qui se met à hurler. Par chance, un médecin arrive, l'allonge et demande à ce qu'on aille chercher sa valise là-bas au bout du wagon. Appelez un agent et empêchez ce jeune homme d'approcher. Visiblement, il n'est pas dans un état normal. Le train se met à ralentir et osciller. Changement de voie. D'ici à 5 minutes, ils seront en gare de Dieppe. Un individu bien décidé à en découdre s'avance d'un pas de soldat vers Nathan qui court vers le sas. L'autre le poursuit. Le jeune homme déverrouille les portes et s'élance dans le wagon numéro 2. Lorsqu'il se retourne, il n'y a plus personne à ses trousses. Il continue son chemin. Il doit vite rejoindre sa place d'origine. Il n'a certainement pas envie de rester bloqué dans ce wagon-là, à 10 ans de sa vie actuelle. Anna se réveille, s'étire. On est déjà arrivé ? Oh, je n'ai pas vu le temps passer. Nathan n'a plus de mots, il est blanc comme la mort. Les gens se lèvent et embarquent leurs bagages, joyeux bordel, cacophonie. Ma mère, elle est morte ? Demande-t-il. Anna le regarde étrangement. « Ça ne va pas ?» Répond juste à la question. « Bien sûr qu'elle est morte, ça fait longtemps. » Nathan ne veut pas y croire. À peine sorti, il s'élance sur le quai en direction de la queue du train. Sa mère n'est pas là. Aucune des personnes qu'il vient de croiser 5 minutes plus tôt n'est là. Il sort d'un train de 1991 avec des passagers de 1991. Chacun est à sa place, dans son époque. À droite, dans le futur, d'autres personnes débarquent à ce moment même, à 10, 20, 30, 40 ans d'écart. À gauche, dans le passé, il est en train de naître. Son père attend quelque part dans la gare, sa mère hurle et pleure de joie en même temps. Tout s'est produit en un jour, tout va se produire sur ce quai. Mais aujourd'hui, sa mère est morte, il n'a pas réussi à la sauver. Le destin ne se laisse pas faire, mais ce n'est que partie remise. Il réessaiera autant de fois que nécessaire. Fin de l'histoire.